Assalamu alaikum wa rahmatullah, ravie de vous retrouver sur Éthique, le nouveau média destiné aux jeunes de la communauté. C'est Inès qui est aujourd'hui avec vous pour notre premier épisode de la série d'entrevues les portraits du mois. Notre invité d'aujourd'hui est monsieur Baradji, l'occasion d'en connaître un peu plus sur son parcours et également de bénéficier de ses conseils, inshallah. Donc assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Très heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Donc vous avez actuellement 27 ans, vous êtes née en région parisienne, vous avez étudié au Mali durant votre adolescence, ce qui vous a donné goût pour les sciences religieuses, donc des études que vous poursuivrez par la suite à l'Institut Al-Mad Al-Assa de Cheikh Ayoub et également à l'Institut Emin. Un CV impressionnant, mashallah. Vous êtes actuellement très actif dans le milieu de l'éducation et notamment dans le domaine de l'éducation à l'ère du numérique, donc qui est un sujet qui revient fréquemment dans vos conférences. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu plus votre rôle au sein de la communauté, pourquoi pas vos projets à l'avenir, ou également ce que vous a rapporté votre parcours?
Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Merci pour l'invitation, chère Inès, et ravi d'honorer en tout cas la première interview de ce média que je recommande à toute notre jeunesse musulmane. Alors me concernant, vous avez un peu évoqué mon parcours, on va essayer de revenir là-dessus. J'ai grandi, j'ai baigné dans une famille religieuse musulmane. Mon père était imam. Je vivais dans le 95 et il était le deuxième imam de la mosquée quand l'imam n'était pas là. Il préparait ses vendredis. J'ai le souvenir et même les images de le vendredi matin. Il sort tous les livres.
C'est l'atmosphère d'enfance en fait.
C'est ça. Bon, classiquement, comme chaque jeune ayant grandi en France, le week-end, j'allais à des cours de langue arabe. Pour être très honnête, que j'appréciais pas trop spécifiquement. Ça dépendait des moments. Ce que j'appréciais surtout, c'était quand on nous racontait des histoires. Et notamment, l'une des histoires qui m'a marqué, c'est le prophète Youssouf, alayhi salam. Et à l'issue de cette histoire, je lève la main et je dis au professeur, bien évidemment, je posais la question comme si je n'étais pas concerné. Monsieur, est-ce qu'on a des personnes qui peuvent être encore prophètes? Parce que tellement l'histoire m'avait marqué, m'avait touché, et dans mon esprit, je me disais, il faut que je sois prophète. Mon rêve a été rapidement brisé, mais voilà. Donc ça a commencé vraiment comme ça, des cours d'arabe à la maison. Non, même avant d'être des cours d'arabe de quartier, vraiment, c'était à la maison. Mon père m'a offert mon premier Coran, c'était pendant un ramadan, et ensuite, dans le quartier. Mais je préférais aller jouer au foot, pour être très honnête. Et ensuite, à mes 11 ans, il a pris la décision que je me rende au Mali. J'aime souvent caricaturer et dire ces 4 années de vacances. Et alhamdoulilah, je remercie vraiment mes parents pour ce choix. Je pense que c'est le meilleur choix qu'ils aient fait. D'une part, ça m'a permis de connaître mes terres, ma famille, et également c'était l'opportunité pour moi vraiment d'étudier dans un cadre islamique à un âge vraiment phare, un âge où on commence à devenir un jeune adulte, on commence à se construire par soi-même. Et on va dire, mon père a eu le flair de nous envoyer à ce moment-là avec mon petit frère. Et pendant 4 ans, j'étais dans un internat là-bas où on étudiait les sciences religieuses, on apprenait le Coran, etc. Donc je suis parti de mes 11 ans à mes 15 ans. Je peux même vous dire les dates exactes et précises de mes vols et mes retours. Mais
c'était prévu, vous êtes parti, c'était prévu que vous restiez 4 ans là-bas quand vous êtes parti la première fois, ou c'est venu par la suite?
Mon père, il avait dans la tête. Moi, je pensais que j'allais un peu en vacances. Il m'a pas trahi, c'est-à-dire que en fait il nous a emmené avec lui voir un des responsables de cette école qui était présent ici. Il a signé les documents, mais on n'était pas conscients. On n'était pas conscients parce qu'il nous avait pris des billets aller-retour. Donc forcément, moi, dans un coin de notre tête, on se disait qu'on allait revenir. Mais
vous mesuriez pas à ce moment-là que
non, pas du tout. Pas du tout. Et il est d'autant plus malin, mon père, que en fait, il nous a fait d'abord découvrir l'école. C'est-à-dire qu'on est parti visiter l'école, il nous a mis un peu dans le bain, etc. Et
sans forcément la perspective d'y entrer, il vous a fait...
Si. Mais en fait, je ne mesurais pas sur le temps que j'allais rester là-bas. C'est pour moi, c'était une école, tu vas voir. En fait, quand on est enfant, on ne mesure pas la portée de cette réalité-là. Mais après, ce qui est bien dans cette école, c'est qu'il y avait beaucoup de natifs français, en fait. Comme moi, qui ont quitté la France et qui sont partis s'installer. On avait même des voisins. Donc une fois arrivé là-bas, c'était... On est vite rentré dans le lot, et notamment le jour où on a commencé à visiter là-bas. Nous, on voulait tout de suite rester là-bas, et mon père, il rigolait, il disait « Oui, ne vous pressez pas, vous verrez. » Et on est resté 4 ans là-bas avec mon petit frère. Et je pense que lui avait les 4 ans déjà prédéfinis, et après, ça s'est fait naturellement. Mais au fil du temps, on s'habitue, et on prend nos marques là-bas, et alhamdoulilah, vraiment, ça fait partie des belles années de ma vie.
Et c'est un cadre que vous avez apprécié, du coup,
énormément. Les études religieuses. Moi, personnellement, ça m'a... En fait, c'est le cadre, il me convenait totalement. Vraiment. J'aimais beaucoup cette atmosphère-là, le rythme. Alhamdoulilah, en fait, la madrasa était juste juxtaposée à une mosquée. Donc, on faisait l'ensemble de nos affaires de prière. C'est un âge important où, en fait, il faut ancrer des habitudes et des rites. Et le fait d'être dans ce cadre-là m'a permis d'ancrer ces rites-là, tels que aller souvent prier à la mosquée, tels que faire souvent les invocations du matin et du soir, tels que se regrouper et faire des assises. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié.
Je pense que c'est important que vous le mentionniez, parce que justement, un âge, celui où vous étiez, donc de l'adolescence, on peut avoir une image comme quoi d'aller au Mali, 4 ans, avoir une image un peu peut-être d'être cloîtré, ou alors que ce soit négatif, alors qu'on voit que par exemple pour vous, ça a été vraiment une année, des années vraiment florissantes et très enrichissantes. Pardon. Donc je pense que c'est un point important également que vous le mentionniez.
Juste pour revenir et un peu plus précis, effectivement, souvent, quand on entend ces parcours-là, c'est des enfants qui étaient perturbateurs, turbulents, qui sont partis. Et par la grâce de Dieu, ce n'était pas mon cas. Moi, comme j'aime souvent le dire, j'étais un peu le chouchou de la maîtresse. Et donc, je ne suis pas parti parce que je faisais beaucoup de bêtises. Et souvent, c'est vrai que certains papas africains subsahariens ont fait cela pour ces raisons-là, mais d'autres, ce n'est pas pour ces raisons-là. C'est vraiment aller découvrir la culture et parallèlement apprendre les sciences religieuses et parallèlement, en fait, aller à l'école de la vie. J'ai été là-bas à l'école de la vie. Et qu'est-ce que l'école de la vie ? En fait, c'est se responsabiliser soi-même et laver ses vêtements soi-même. C'est, y a l'heure du repas collectif et on va manger ensemble. Tu décides de ne pas manger, tu n'auras pas de repas jusqu'au prochain repas. C'est également voir la pauvreté réelle, voir des enfants de son âge similairement en train de mendier partout. Donc c'est ça l'école de la vraie vie. On n'est pas tout le temps câliné, chouchouté, etc. Donc oui, et je ne parlerai même pas d'adolescence pour être beaucoup plus précis. Je parlerai d'être un jeune adulte. Parce qu'on commence, en islam, on parle de puberté. Une fois qu'on est pubère, la responsabilité de nos actions nous incombe. Et je pense que percevoir les choses de cette façon-là, c'est très important. Et nous aide finalement à éduquer les jeunes dans cette perspective-là. Vous êtes des jeunes adultes. L'ensemble des actions que vous faites sont comptabilisées pour vous-même. Donc voilà, on vous éduque dans ce sens-là. Et là-bas, on était vraiment dans cette perspective-là.
Donc, beaucoup de points positifs pour vous.
Alhamdoulilah.
Et du coup, ça vous a inspiré par la suite, qu'il s'agit de vos projets ou alors de votre rôle actuel, ça vous a beaucoup inspiré, je présume.
Oui, très rapidement. Alhamdoulilah. Quand on arrive dans cet environnement vraiment qui est propice à vivre sainement sa spiritualité, on a tout envie. On a envie d'apprendre le Qur'an par cœur. On a envie d'apprendre Kutub Sitta par cœur. En fait, on a beaucoup d'ambition. Moi, en tout cas, ça m'a nourri. Et c'est à cette même période que j'ai commencé à lire aussi sur l'histoire des compagnons. Vraiment, ça m'a bouleversé. Vraiment, ça m'a changé. Et j'aime beaucoup parler. Et du coup, c'est à cet âge-là. Déjà, quand j'étais petit, je disais que je voulais être imam. D'ailleurs, je ne savais pas le dire. Je disais l'Ali imam. L'Ali imam, je m'en rappelle. Et une fois arrivé là-bas, une fois que je voyais les imams faire leur sermon du vendredi et que je comprenais la langue locale aussi, je me suis dit, mais moi, si j'étais imam, déjà, je ne ferais pas comme ça, je parlerais plutôt comme ça, les sujets, etc., que j'aborderais.
Vous profitiez, en fait, dans ce rôle-là.
Totalement, totalement. Et après, à mon retour, il y a eu des circonstances qui ont facilité tout doucement ce que j'en arrive à cette réalité-là.
D'accord, pour ce résumé un petit peu de ce que vous avez, tout ce que vous avez pu vivre avant de finalement vous jeter pleinement dans la dawa au sein de la communauté. Et donc, comment est-ce que vous pourriez nous décrire actuellement votre rôle? Quels sont vos mobiles aussi de votre action, en fait, au sein de la communauté? Comment est-ce que vous présenteriez votre rôle? Comment est-ce que vous l'envisagez?
Bonne question. J'ai un peu du mal avec les titres, parce qu'on nous met dans des cases, mais je mets ces titres-là entre guillemets. Le premier des titres, il est personnel, mais j'aime le rappeler. Et après, je dirais ô combien il m'anime et il m'oriente dans mon action, c'est vraiment de cheminer soi-même. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la casquette d'imam et j'aime souvent dire d'éducateur. Il est très important pour moi que d'accompagner l'enseignement et d'essayer de le faire jaillir et d'accompagner l'éveil. Du coup, pour moi, la notion d'imam éducateur, elle est très importante. Mais avant tout, c'est un cheminement. C'est moi qui chemine et modestement, au vu de mon modeste savoir et des personnes qui m'entourent à ce moment-là, j'essaye de le transmettre. Mais si on devait être beaucoup plus concret, je suis imam dans une mosquée dans le 11e arrondissement. J'y fais les khutbas du vendredi, j'y enseigne. Je suis enseignant dans un établissement musulman. Donc, et j'essaye beaucoup, dès qu'il y a vraiment l'opportunité de transmettre à la jeunesse, j'y vais. Dans des associations comme Prémices qui accompagnent sur le plan scolaire, je fais régulièrement des assises avec eux. Dès qu'il y a une opportunité, encore une fois, d'accompagner cette jeunesse musulmane à l'âge où j'ai fait mon départ au Mali, je ne sais pas s'il y a un lien particulier, mais c'est un âge que je trouve très important. Et vous me parliez de projet, un des projets sur lesquels je suis en train de travailler, c'est vraiment un espace où on va permettre à ces jeunes adultes, en comprenant leur réalité, parce que c'est un âge assez complexe, où on est en train de se développer par soi-même, parce qu'on est en capacité de se construire, mais on veut se construire indépendamment de nos parents. En fait, on veut créer nos propres repères. Et cet âge-là, au vu du fait qu'il est assez complexe, j'aime être proche de cette tranche d'âge-là, de prendre le temps d'écouter, parce que c'est une tranche d'âge où on n'écoute pas souvent. On impose plutôt qu'on écoute. Écouter ne veut pas forcément dire tout accepter, mais je pense que c'est le premier lien qui permet la confiance, de savoir écouter et d'être
Lorsque vous vivez
exemplaire.
finalement face à l'autorité aussi, c'est quelque chose d'assez présent dans cette
Tout
tranche
à fait,
d'âge-là, et vous
tout à
essayez
fait.
d'être actif sur plusieurs plans pour essayer de contrer ce côté, essayer d'appréhender en fait la réalité des jeunes d'une autre façon.
C'est ça.
Peut-être qu'ils n'ont pas l'occasion de
C'est
creuser.
ça. Et ça commence vraiment par la confiance. Et cette confiance se traduit par l'écoute et le non-jugement. Toujours poser ce cadre-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne mesure pas la gravité de ce qui est fait, mais c'est l'espace est là pour qu'on puisse en discuter une fois que tu as déposé ce que tu avais à déposer, et si on trouvait les solutions. Voilà.
Genre, donc c'est votre approche, c'est une approche très pédagogique finalement que
On
vous avez à
essaye.
l'encontre de ces jeunes-là.
On essaye.
Et donc dans la continuité de cette dernière question, finalement il y a parfois une image un petit peu stéréotypée du daï en fait qui serait celle uniquement du prédicateur. Donc comme vous l'avez dit, peut-être l'étiquette de l'imam ou alors de faire une khoutba dans une mosquée, un stéréotype contre lequel que vous contrez finalement puisque vous êtes également très actif dans le milieu de l'éducation comme vous l'avez dit. Donc finalement vous la dawa, le concept de dawa, comment est-ce que vous le définiriez? Comment est-ce que vous voyez la dawa au-delà de cette image simplement du prédicateur qui va faire des conférences et qui peut être parfois très visible en fait, que ce soit maintenant sur Internet ou ailleurs.
Je le résumerai, c'est une très belle question, subhanallah. Quand on demande à Aïcha radiallahu anha quelle était sa morale, son comportement, son attitude, a dit qu'elle a le Coran. Sa morale et son éthique étaient le Coran. Et c'est dire que le prophète sallam portait l'ensemble des enseignements de l'islam partout où il était. Et in fine, la da'wa, qu'est-ce que ça serait pour moi? Ça serait essayer un maximum, partout où on est en fait, de vivre l'islam, fondamentalement. Donc la da'wa au sein de sa famille, c'est vivre les préceptes islamiques. La da'wa à l'extérieur, c'est vivre les préceptes islamiques. Pour moi, c'est fondamental. En fait, on est tous da'i. Mais effectivement, nous, l'image qu'on en a, et comme vous l'avez évoqué, c'est surtout cette image de la personne qui s'adresse à tout le monde. Mais non, c'est la vie de tous les jours, en fait. La vie de tous les jours.
C'est plusieurs
Et
échelles
tout
finalement.
à fait. Et même pour vous donner un exemple concret, et pour voir à quelle hauteur, en fait, on ne mesure pas qu'on fait la da'wa. Quand j'étais au lycée, en première ou en terminale, non, en terminale, parce qu'en première, je n'étais pas délégué de classe. J'étais délégué de classe, et pendant les vacances scolaires, moi, j'aimais beaucoup prendre des nouvelles de mes camarades de classe, leur écrire un petit message, etc. Et on avait une camarade de classe qui était de confession juive. Et un jour, elle m'étonne comme ça, elle me dit Kadjoura, tu sais que j'ai parlé de toi à mes parents. Et j'avais pas mesuré la portée. Le symbole qui avait un peu autour, parce que le lycée dans lequel j'étais, en fait, il était juste en face d'une mosquée. Moi, j'aimais souvent aller à la mosquée. Je ne cachais pas cette réalité-là. Donc, je dis pas que j'en faisais la propagande, mais aux heures où je pouvais y aller, je me rendais à la mosquée. Et donc, voir qu'une jeune juive qui parlait positivement de moi, encore une fois, je ne me faisais pas porte-étendard de l'islam ou quoi que ce soit. Mais voilà, en cette bienveillance, en cette fraternité, elle a vu une facette de l'islam.
Moyen de communication finalement
Tout à
entre
fait.
malgré des confessions différentes.
Tout à fait. Donc tout un chacun finalement est porteur de cette réalité, du message de l'islam. Et tout le monde est derrière. Et après, c'est vrai, certains vont endosser des responsabilités par le fait de prendre la parole, par le fait d'écrire. L'écriture également est un moyen d'être derrière. Ce on est en train de faire dans ce cadre-là. Le média éthique, les romans que Liège Chacal écrit, tout est moyen en fait. Tout est une question d'intention en réalité.
Et du coup, justement, vis-à-vis de ça, vous disiez que être daï, c'est par rapport à ça, ça se joue en fait à toutes les échelles et par tout un chacun d'une certaine manière. Vous qui avez souvent été amené à confronter cette jeunesse, finalement, cette jeunesse musulmane et d'essayer de les accompagner, comment est-ce que vous pourriez, donc au-delà des a priori négatifs que l'on sort très souvent et du ton moralisateur, parce que c'est justement ce contre, enfin ce que vous combattez finalement, le côté très moralisateur, pardon, avec la jeunesse. Comment est-ce que vous voyez la jeunesse musulmane actuellement? Pour vous, qu'est-ce qu'elle porte? Quel est son futur d'une certaine façon? Comment est-ce que vous la voyez dans quelques années? Car ce sont les musulmans de demain finalement.
Comment je les perçois? Je sens une jeunesse en quête de spiritualité, en quête de sens fondamentalement. Et à cette jeunesse, malheureusement, j'ai l'impression qu'il lui manque un cadre. Un cadre. Et ça se traduit notamment par le fait que beaucoup, notamment hier j'étais en cours et je discutais avec beaucoup de nos jeunes, et l'une des phrases qui est souvent ressortie, c'est « j'ai appris ça sur TikTok ». On peut voir deux choses, on peut se dire « ah bah, cette jeunesse elle est toujours sur les réseaux sociaux ». Mais tout comme la deuxième chose qu'on peut voir, c'est « cette jeunesse certes elle est sur les réseaux sociaux et c'est normal parce que c'est la réalité de notre temps d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle consulte ?» Je ne dis pas qu'elle consulte uniquement ça, mais parmi les éléments qu'elle consulte, c'est la recherche de sens, la recherche de Dieu, leur cheminement, leur attachement à Dieu. Et moi, l'une des questions que je me pose, je me dis, mais pourquoi ils vont chercher ces questions-là sur TikTok? Et l'une des conclusions auxquelles j'arrive, c'est qu'on n'est pas présent sur le terrain. C'est que ces espaces où ils peuvent venir, où on peut échanger avec eux, où on est à leur contact, où il y a cet espace de bienveillance, cet espace de confiance, où on construit avec eux, on leur permet l'espace d'erreur, on n'a pas assez d'espace comme ça sur le terrain. Et l'idée étant, et on parlait de projet tout à l'heure, vraiment de créer davantage ces espaces-là pour la jeunesse, mais en les accompagnant. Pour celle-là, mais ce qui est beau la manière dont on nomme ses compagnons, on appelle ça ses sahabas, ces personnes, ses compagnons. Ils étaient autour de lui. Et je suis persuadé que vraiment, par la perspective du compagnonnage, on apprend énormément. Le fait d'être entouré, le fait d'être à côté. Et je pense que les imams, les éducateurs regagneraient finalement dans les demeures de Dieu, dans nos instituts, à créer ces espaces-là. Donc, et créer ces espaces-là, qu'est-ce que c'est? C'est comprendre l'âge, la période que traverse un jeune adulte et poser un cadre éducatif qui va permettre à ce jeune de grandir. Donc, je vois, comment dirais-je, du positif, mais il faut qu'en tant que communauté, nous prenions nos responsabilités et que nous concevons nos espaces dans une perspective où on va pouvoir permettre à cette jeunesse-là de s'exprimer et de se réaliser. Et parallèlement, pour être très honnête aussi et pour mettre les pieds dans le plat, je suis quand même inquiet de la réalité du monde dans lequel on vit, avec les réseaux sociaux, avec les mœurs qui sont en train de il n'y a plus de mœurs en termes de perte de repères, et je pense que ça impacte énormément. Donc sur notre société, sur cette jeunesse et sur le devenir également de la société. Mais je ne suis pas fataliste. En fait, il faut clairement établir ce constat-là, à savoir que ça ne va pas spécifiquement, qu'il y ait des problématiques, mais comme j'aime le dire, en fait, à tout problème, une solution. Lorsqu'on perçoit la problématique, une problématique, dans un champ, dans un domaine, si on le perçoit avec insistance et souvent, la facilité est de constater. Ah oui, mais il y a ça. Et de critiquer.
Si ils vont remédier par la suite, ce serait ça.
Et c'est ça. Allah, il nous dit « Amanu wa aminu salihat ». Donc, adhérer à des principes et à des valeurs, donc avoir la foi, ensuite les mettre en œuvre. Et je pense que c'est ce qui nous manque, mais il faut qu'on apprenne à faire communauté aussi. C'est important.
De se souvenir davantage, je voulais dire, autour de...
C'est ça. Et apprendre à travailler ensemble. Apprendre à travailler ensemble, ces projets, c'est ce qu'ils nécessitent. On a l'air de l'individualisme et on le perçoit beaucoup. Chacun y va de son institut, chacun y va de son école, de sa plateforme. Je ne dis pas que c'est mauvais, parce que même quand on reprend finalement, anciennement, chaque chouyour avait son assise, etc. Mais quand est-ce qu'on fait quelque chose de commun? C'est ça le plus important. Quand est-ce qu'on s'assoit et qu'on décide finalement ensemble, main dans la main, d'identifier les défis auxquels nous devons répondre et de se répartir la tâche? Et ça, je pense que c'est très important.
Il est vrai que ce principe d'unité, c'est une problématique qui ressort beaucoup, en effet, à l'ère où la communauté peut se montrer malheureusement assez divisée, quand même facile. Et d'ailleurs, le sujet que vous avez évoqué lors de votre précédente réponse nous fait une bonne transition pour la prochaine question. Vous parlez beaucoup de l'éducation à l'ère du numérique, ça veut dire face à cette jeunesse, en fait, donc cette jeunesse dont nous parlons justement. Vous pensez que le numérique tient une place très importante, ce qui, dans un monde digitalisé comme celui où nous vivons, n'est pas étonnant. Et donc... est-ce que vous pourriez nous exposer un peu davantage les raisons pour lesquelles cet aspect il vous paraît tellement primordial pourquoi est-ce que cette problématique des réseaux, d'internet, de ce que l'on peut trouver en fait sur le web, influence tellement cette génération et parfois même notre communauté plus que d'autres, étant donné qu'il n'y a pas forcément le cadre éducatif approprié.
Pourquoi cette thématique revient souvent, et merci de la question, c'est parce que d'une part, aujourd'hui, tout ce qui concerne autour des réseaux sociaux, les téléphones, fait partie de notre quotidien. Et aujourd'hui, on voit rapidement des jeunes et moins jeunes finalement avec cet outil-là. Et sans en mesurer finalement la portée, les conséquences dramatiques. Et en fait, c'est un outil qu'on met facilement dans la main des jeunes aujourd'hui. Alors que ça a de grandes conséquences. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le mettre dans les mains. Il faut retarder la chose un maximum, on retardons. Moi, je dirais plutôt il faut éduquer à cette réalité-là. Il faut prendre les devants et éduquer. Et notamment, comme je disais souvent, mais c'est une technique connue en marketing, lorsque quelque chose est gratuit, c'est que nous sommes le produit. Et aujourd'hui, si on reprend la question des réseaux sociaux, moi, ce qui m'interpelle et ce qui me dérange, c'est que nous, parents, ça ne nous dérange pas que de... Donc, on donne un téléphone à notre enfant parce qu'il veut aller au collège et il veut nous appeler pour nous rassurer qu'il est bien arrivé au collège. Si tu veux, pourquoi pas? Mais pourquoi tu lui donnes un smartphone? Parce qu'on parle d'éducation.
C'est une nécessité, on dirait quelque chose de vital, finalement.
Et on va me dire, oui, c'est l'ère de la digitalisation, j'entends, mais il y a une éducation, on sait nous-mêmes, aujourd'hui, on devrait même parler d'addiction, de ces réalités-là. Il y a une grande addiction, et que ce soit adulte comme enfant confondu. Là, les vacances scolaires sont passées, et je suis persuadé que la grande majorité des jeunes ont passé l'ensemble de leurs vacances scotchés sur leur écran. Très peu d'entre eux sont sortis, j'en ai fait hier, j'ai posé la question à mes élèves, qu'est-ce que vous avez vu? Ah, j'ai rien fait d'intéressant. Et beaucoup d'entre eux étaient sur leur téléphone, une sorte d'insomnie parce qu'ils passent leur nuit finalement sur les téléphones et ils se rattrapent la journée. Et je caricaturais, je dis non, mais minimum basique, il n'est pas permis pendant les vacances qu'on se réveille avant 13h. Non, non.
C'est vrai que après, ça impacte tous les aspects de la vie, clairement. Finalement, même juste au niveau strict du rythme en fait, qu'un être humain doit observer, et c'est pas le cas pour la jeunesse actuellement.
Donc c'est le minimum. Donc ces outils-là en fait. On ne peut pas faire sans, mais il faut éduquer, il faut accompagner. Un des exemples que je donnais, je disais, quand votre enfant a TikTok, Snapchat ou autre, vous voulez l'accompagner, vous lui amenez le fait que il y a des règles finalement partout. On ne vit pas sans morale, on a un cadre. Très bien. Donc cette plateforme sur laquelle tu souhaites t'inscrire, moi déjà avant tout, si tu souhaites t'y inscrire, lis toutes les règles. On va jouer le jeu. Lis toutes les règles. Et parmi les règles, je pense, et beaucoup de plateformes sur ces plateformes-là, les enfants, ils ne sont pas en âge finalement d'être sur cette plateforme-là, mais ils sont sur cette plateforme-là. Et pour l'accompagner, désolé mon enfant, tu n'es pas en âge. Et voilà, ça je pense que c'est éduquer sainement. Mais lui laisser faire totalement ce qu'il a à faire, ne pas avoir un aperçu dessus, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit là, clairement. Et par éduquer l'éducation spirituelle à l'ère du numérique, ce qu'on entend, c'est que la posture qu'on est censé avoir dans la vie de tous les jours, en fait, c'est la même attitude qu'on est censé avoir sur les réseaux sociaux. Et ça manque à beaucoup. Dans la vie de tous les jours, on les voit, ils sont chaleureux, ils sont gentils. Mais c'est les mêmes personnes qui sont désagréables, qui sont insultantes, qui vont regarder des mauvaises choses. Non, tu dois baisser le regard dans la vie de tous les jours. Sur les réseaux sociaux, tu dois faire attention à ce que tu regardes. Tu dois parler correctement dans la vie de tous les jours. Sur les réseaux sociaux, tu dois faire attention à la manière dont tu parles. Et du coup, l'idée, c'est de revenir à ça, d'expliquer qu'est-ce que veut dire déjà le terme éducation. Et notamment spirituel. Rassel me dit « Innama bo'asou liutam imam akarim al-akhlaq » J'ai été envoyé pour parfaire la moralité, le comportement, l'éthique. Donc, on a conscience finalement qu'on doit s'améliorer, qu'on doit corriger, purifier des choses en nous. Il en est de même lorsqu'on est présent finalement sur ces réseaux-là. On doit faire attention à certaines choses, à ce que notre spiritualité, notre religion nous recommande. On doit également faire attention à la perte de temps. Aujourd'hui, c'est un réseau sur lequel on perd énormément de temps et ça a énormément de conséquences. Énormément de conséquences. Parmi les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, même si certains travaillent, encore une fois, j'aime dire l'outil est neutre, mais il n'est pas totalement neutre. Pourquoi il n'est pas neutre? Parce qu'en fait, il a été pensé par des personnes. Et ces personnes-là, ils n'ont pas les meilleures des intentions. Leurs intentions sont pécuniaires. Elles sont pécuniaires, mais en fait, ils sont prêts à tout finalement pour arriver à leurs moyens. Et je pense qu'on... Il y a un petit placement de produit, il faut bien. Sur Netflix, on a derrière nos écrans de fumée un documentaire qui parle de cette réalité-là. De personnes qui ont travaillé en interne et qui nous parlent des méfaits de ces choses-là. La plupart des grands milliardaires, des personnes qui sont les fondateurs de que ce soit les réseaux, que ce soit les téléphones, toutes les choses finalement qu'on donne à la masse, ce qu'on appellerait entre guillemets l'élite financière ou intellectuelle et autres, n'est pas plongée dedans. Est-ce que c'est anodin ?
Donc pour rebondir sur ce que vous disiez, dans ce monde finalement très digitalisé où les jeunes se trouvent finalement pris dans une sorte de piège, celui des réseaux sociaux et également de la perte de temps, comme vous l'avez dit, quel conseil est-ce que vous donneriez actuellement aux jeunes de la Ouma, à la Ouma en général, mais plus particulièrement aux jeunes, afin de devenir des membres socialement actifs ? Donc au-delà du fait de travailler sur soi-même, comment essayer de également travailler sur le monde qui nous entoure finalement, et laisser espérer un meilleur sort pour la Ouma, Inch'Allah, dans les années à venir ? Qu'est-ce que vous donneriez comme outil, et pourquoi pas également nous suggérer des lectures, car comme je le sais, vous êtes férus de lectures dans ce domaine, donc quel conseil vous pourriez leur donner ?
Le premier des conseils, c'est vraiment avoir des repères. Et pour avoir des repères, il faut des modèles. Il faut des modèles, et parmi les premiers modèles, je pense vraiment qu'il faut revenir et relire l'histoire des prophètes, relire l'histoire de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, des compagnonnes, des tabirines. En fait, vraiment des hommes pieux et des femmes pieuses. Il faut lire leur histoire. Et on en a dans la vie de tous les jours à nos côtés. Mohamed Hamidullah, récemment, un livre a été sorti sur lui. Beaucoup, beaucoup de personnes en fait qui nous entourent, que ce soit contemporain ou à l'époque du Prophète sallam ou quelques années après. Donc la première des choses, c'est que pour se forger en identité, il est important du coup de connaître notre histoire. Donc l'histoire est très importante. Donc la première, c'est vraiment avoir des modèles et connaître son histoire. Je pense que c'est l'une des choses impératives. Et comme je le disais, parmi les éléments positifs, vraiment on sent que cette jeunesse musulmane à la volonté que de vouloir cheminer. Et pour cheminer, le meilleur des lieux, le meilleur des espaces est la demeure d'Allah. Ce sont les mosquées ou les instituts où on dispense des cours de religion. Ce à quoi j'invite cette jeunesse, c'est vraiment de retourner là-bas et de s'approcher d'une part de l'imam ou des éducateurs qui sont présents ou des anciens. C'est très important que de discuter avec les anciens. Vous savez pourquoi ? Parce que, en fait, les anciens, certes, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas la théorie, mais ils ont la pratique. Ils ont l'expérience pratique de ce que c'est la spiritualité, de ce que c'est la religion musulmane. Il n'y a rien de mieux, en fait, que l'expérience, même si la théorie est très importante. Donc, à cette jeunesse, vraiment, je l'invite à retourner dans les vrais lieux d'éducation spirituelle, qui ne sont pas les réseaux sociaux, parce que c'est toujours éphémère, c'est comme un calmant. Sur le moment, ça te fait du bien, parce que, voilà, ça t'a apaisé, mais c'était d'ailleurs très, très éphémère, ça a duré 40 secondes, et pour toi, t'as vécu le rappel de ta semaine. Mais c'est ultra éphémère. Non, va à l'école. Va à l'école des compagnons qui étaient dans la demeure de Dieu. Les premières universités sont nées dans les mosquées. Donc, les mosquées ont ces rôles-là. Et du coup, le deuxième conseil à la Oumma qui s'adresse, c'est... Je demande à la Oumma de réinvestir finalement le champ de nos mosquées. Et de véritablement les transformer en lieu d'éducation. Bien évidemment, où on apprend notre religion, mais au-delà de ça. Un espace où on peut jouer, un espace où on pense différentes activités qui vont aider la communauté musulmane à s'éveiller intellectuellement, et socialement, et culturellement. Vraiment, un lieu de créativité très très important. Et parmi les éléments également que je peux avancer pour permettre à cette jeunesse de se nourrir et d'avancer, c'est lorsque nous percevons des problèmes, vraiment comme je le disais tout à l'heure, d'essayer d'en être la solution. Je donne un exemple concret. Et des frères que je connaissais dans la ville dans laquelle j'ai grandi, dans le 95, quand notre mosquée a été créée, il y avait beaucoup de critiques autour des dirigeants de la mosquée. Ils font ceci, ils font cela, c'est mal fait, le vendredi, etc. Et à un moment donné, en fait, on s'est dit, mais c'est notre mosquée. C'est la maison de Dieu, elle appartient à tout le monde. On se plaint que le vendredi, le parking, il est mal géré. On va commencer à s'occuper du parking. Et quand on a commencé à s'occuper du parking, on a commencé à être un peu plus nuancé. En fait, c'est pas si facile. Ah, c'est pas évident. Mais ça nous a appris des choses. Donc, l'idée, c'est de dire, quand on perçoit des problématiques, des difficultés quelque part, comment modestement je peux y contribuer ? Comment je peux apporter ma touche à l'édifice ? Ma pierre à l'édifice, plutôt.
C'est toujours dans l'acte, finalement, et pas uniquement souvent, dans l'observation. Ouais.
Mais l'acte, pas dénué de sens. C'est très important. C'est-à-dire que c'est « amanu wa aminu salihat ». C'est vraiment avoir une vision qui vient orienter notre action. Parce que des fois, quand on n'a pas de vision, notre action est dénaturée. On peut même trahir certaines de nos valeurs sous le prétexte qu'on fait une bonne action. exemple concret et typique qu'on aime souvent donner, je fais une maraude, mais je rate ma prière. Donc, c'est vraiment, j'apporte, mais je n'oublie pas, en fait. Et c'est à partir d'une vision, finalement. Et le fait qu'on parte du cadre de la mosquée, le cadre de la mosquée ou de l'institut, donne et oriente dans la vision. Et donc, ce à quoi j'inviterais cette jeunesse, c'est de se responsabiliser, d'être un peu viril, et d'arrêter d'être gâté, et qu'il n'y a pas d'adolescence, c'est ce que je veux leur dire. On arrête de rêver, il n'y a pas d'adolescence.
C'est un âge créé, en quelque sorte.
Tout à fait.
Tout à fait. On a beaucoup stéréotypé et on répète aux enfants toujours qu'ils vont la vivre.
Exactement. Donc oui, on parle de crise d'adolescence. On revient sur Terre. Tu as atteint l'âge de la puberté. Tout ce que tu as fait, tu en es responsable. Mais ce qui veut dire, c'est qu'à nos parents, à nos éducateurs, à nos mosquées, d'éduquer nos enfants dans cette perspective-là. C'est très important. C'est très important qu'ils aient éduqué dans cette perspective-là et leur permettre cet espace-là. Donc c'est un travail à faire à plusieurs échelles. Et enfin, la dernière des choses, c'est de toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accompagner, de nous accorder le tawfiq, et d'accepter, à l'image des prophètes, encore une fois, on revient à la question de modèle, que ça n'est pas parce que j'ai décidé aujourd'hui que je veux que les choses se fassent comme ça, que tout va se faire du jour au lendemain comme ça. On est la génération Amazon Prime. On a commandé, on a demandé quelque chose, on a décidé quelque chose, on le veut sur l'instant.
C'est le tout de suite.
Ouais. Et c'est pas comme ça, c'est pas ça l'école des prophètes, c'est pas ça l'école des compagnons. Voilà, que Dieu nous accorde la patience, le tawfir et la fraternité.
Barakallahu fikoum pour cet entretien qui était très enrichissant, vraiment, pour vos réponses. Qu'Allah vous facilite également et vous aide dans votre mission et fasse également de cette jeunesse, Inch'Allah, des assistants pour vous, Inch'Allah, dans le monde de demain, et également de permettre la renaissance de la Oumma, finalement, de pouvoir éveiller les consciences, c'est également le but, Inch'Allah, de cette série, pouvoir éveiller les consciences, en fait, finalement, à cette problématique que la jeunesse a beaucoup de potentiel. Qui est malheureusement beaucoup délaissé finalement, et que beaucoup de facteurs viennent perturber ce potentiel, l'empêcher de s'exprimer pleinement. Donc, qu'Allah nous aide, Inch'Allah, à cette mission. Et barakallahu fikoum.
Barakallahu fikoum à vous pour l'invitation, et que Dieu mette la baraka dans ce média et dans l'ensemble des actions que vous portez. Et j'invite finalement la jeunesse musulmane à se joindre à vous finalement pour permettre à cette jeunesse de s'ancrer dans son identité. Et d'être à la hauteur comme les compagnons du Prophète, qui pour la plupart au départ de l'islam étaient des jeunes.
Voilà. Barakallahu fikoum d'avoir visionné cette interview, et on vous retrouve, Inch'Allah, très prochainement pour le deuxième volet de la série Portrait du Moi. Wassalamu alaikum.